Europe 1.
heures sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter en compagnie d'un garçon qui défie son époque. Et oui, bonjour Mathieu Noël.
Non, bonjour Stéphane, c'est vrai, vous trouvez que j'ai un côté comme ça rebelle, un peu pionnier peut-être, hein?
Non Mathieu, je plaisantais, vous êtes suisse.
Ah oui.
Je faisais référence à notre thème du jour en revanche.
D'accord.
Puisqu'aujourd'hui on réunit trois dames farouchement affranchies et qui ont défié leur époque. À commencer par celle qui a défié son époque et les Médicis en particulier. Son nom, Bianca Capello, maîtresse puis épouse de François Ier de Médicis, qui fut considérée comme la femme la plus détestée de son temps pour avoir notamment tenu tête à tout le duché. Puis je vous raconte le destin d'une étoile en URSS, Maya Plissetskaya, qui s'est affranchie du régime pour pouvoir continuer à faire ce qu'elle aimait. Danser. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une femme chauffeur de taxi.
Oui Stéphane, mais pas n'importe où, dans un pays où les femmes sont rarement chauffeurs de taxi, la Somalie. Elle s'appelle Asha Mohamed et vous allez voir, son histoire est inspirante. Un peu comme les parcours de vie de nos fidèles chroniqueurs qu'on ne présente plus, mais on va quand même le faire au cas où des auditeurs arriveront en cours d'année.
Oui, sait-on jamais. Alors avec nous comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde, j'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oh, comme c'est bien amené. Bonjour messieurs, bonjour à tous.
C'est vrai que c'est incroyable, il a dit votre nom quoi.
Oui, oui. Non mais il l'a dit sur un ton assez sentencieux, assez cérémonieux.
Ça elle plus, quoi. Elle oui. On met plus les trompettes de la renommée.
Ça faisait assez aboyeur. Vous savez, autrefois, il y avait des aboyeurs dans les...
Ah oui, c'est pas mal. Portier-Kaltenbach.
Faut vous pincer le nez quand vous dites ça. Bon, alors, il existe des femmes tellement affranchies qu'elles prennent les pires défauts des hommes les pires et deviennent des mégères et des mégères qui vont parfois jusqu'à battre leur mari. Alors je vous entraîne sur le chemin de ces femmes terribles, le temps de prendre mon rouleau à pâtisserie et vous allez voir de quel bois je me chauffe, les garçons.
On tremble.
On tremble. Avec nous David Castel-Lopez qui remonte aux origines d'une invention.
Oui. Tout à fait.
Je vois un point chemise peut-être d'abord.
Je vois
qu'on est moins... Hier, on était
on
très
est moins wrinkle-free qu'hier.
Là, aujourd'hui, on sent que la chemise a un peu vécu. Il y a eu peut-être une nuit compliquée.
C'est pas la même chemise.
Si votre maman vous voit, David, je pense qu'elle doit être très mélancolique.
Oui, oui, non, c'est...
Et on fera un point coiffure après.
Chaque chose en son temps.
Il faut qu'on le reprenne en main, ce petit.
Non, c'est vrai. C'est bizarre parce que je prends ma chemise le matin comme ça, je me dis, je vais avoir des remarques, c'est sûr. Et je n'ai pas le temps de la repasser, et donc je viens ici à la radio.
Vous remontez aux origines de quoi aujourd'hui?
Oui, alors de quelque chose qui, je pense, pas va dire grand chose aux gens autour de la table, qui s'appelle le Nyan Cat. Le Nyan Cat, c'est un mème, c'est une création sur Internet qui a eu un succès planétaire et qui est un peu incompréhensible pour. Bon, j'ai envie de dire à peu près tout le monde, sauf les 192 millions de personnes qui ont regardé la vidéo. Mais voilà.
Et tout à l'heure, en fait, vous m'avez demandé, vous êtes venu vers moi en espérant trouver une oreille compatissante, quelqu'un qui connaisse cette histoire du Nyan Cat, mais je vous dis que non. Moi non plus, je ne savais pas ce que c'était.
En revanche, puisqu'on reste dans la gastronomie, eh bien, Olivier Pouls va nous remonter aux origines d'une recette, enfin en tout cas d'un mets que nous connaissons bien.
Ah oui, bah, c'est sûr.
Le café liégeois.
Est-ce qu'il est liégeois, le café liégeois?
Eh bien, non. Et vous verrez qu'il a une histoire qui est vraiment touchante et passionnante.
Il a été viennois, non, avant d'être liégeois. C'est pas ça l'histoire, à cause de la guerre de 14.
Aussi. Eh oui.
Mais c'est la même chose, un café liégeois, un café viennois.
Ah, c'est à peu près la même chose, mais vous verrez ce qui s'est passé. Et je vous donnerai aussi les origines du café viennois, parce que deux sont liés. Oui. À chaque fois, une histoire de guerre.
Ah, enfin, Stéphane et Clémentine, vous n'êtes ni affranchis, ni très rebelles, comme nos héros du jour. Vous ne défiez pas l'ordre établi, mais vous vous défiez l'un l'autre. Et c'est déjà ça. Ça s'appelle Burn to be Alive, notre célèbre quiz, et ça sera vers 5h-10. Mais tout de suite, elle fut la femme la plus détestée de son temps. Maîtresse, puis épouse de François Ier de Médicis, elle a su résister, quitte, dit-on, à en perdre la vie. Stéphane Bern nous raconte la dame à la légende noire, l'affranchie Bianca Capello.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Quelle punition. Quand Bianca Capello trépasse le 20 octobre 1587, un jour seulement après son mari, le grand-duc François Ier de Médicis, elle subit post-mortem la pire humiliation qu'elle n'avait jamais ressentie de son vivant. Le successeur de son mari, Ferdinand Ier, la détestait et veut montrer à ses sujets sa toute-puissance nouvellement acquise. Bianca rêvait d'accéder au statut de duchesse fiorentine, eh bien il la réduira en poussière. C'est lui, en effet, qui a interdit toute cérémonie officielle d'obsèques. La paix, Sima, la détestabile, comme elle était surnommée, n'aura pas non plus de sépulture. Ferdinand veut supprimer de la mémoire des Florentins et de l'histoire du duché de Toscane le passage de cette femme carriériste et frondeuse. Ses initiales, gravées sur des façades, sont supprimées. Ses portraits présents dans de nombreuses villas des Médicis sont détruits. Bianca Capello n'est plus. Le nouveau duc, frère et successeur du défunt François, qui jusqu'à présent officiait comme cardinal, est désormais à la tête du duché de Toscane. Mais des rumeurs circulent. N'aurait-il pas sciemment empoisonné à l'arsenic ou au cyanure son frère et sa belle-sœur pour hériter du trône? Aujourd'hui encore, la question n'est pas tranchée. Mais les historiens s'accordent sur un fait. Bianca Capello, morte naturellement ou assassinée, n'a eu de cesse toute sa vie de défier l'ordre établi. Bianca voit le jour en 1548 à Venise dans une famille noble. Les Capello appartiennent à une lignée très ancienne et très respectée. Y naître vous ouvre grand les portes des plus hautes fonctions de la République. Encore faut-il savoir se frayer un chemin dans cette Italie instable du XVIe siècle. Mais les premières années de son existence, Bianca Capello n'a pas vraiment le loisir de découvrir l'effervescence de Venise. Sa mère décède alors qu'elle n'a que 10 ans. Sa belle-mère l'oblige à vivre recluse chez elle. À cette époque, les jeunes filles de ce rang doivent faire preuve de discrétion et attendre patiemment qu'un mari leur soit attribué. Mais dès l'adolescence, Bianca se distingue. Comme la décrivent Carola et Patrick de Carolis dans leur livre « Bianca, l'âme damnée des Médicis », à l'orée de sa 16e année, sa beauté irradie. De sa mère, la charmante Pellegrina Amorosini, elle a hérité ce teint de nacre et ses lèvres vermeilles tant prisées par son entourage. De son père, elle tient ce regard d'un vert indéfinissable aussi mouvant que les reflets de la lagune. Malgré son extrême jeunesse et la modestie de son comportement, on devine un tempérament ardent dont la charge voluptueuse suscitera sa maturité, l'admiration des hommes et l'inimitié des épouses. À ses atouts physiques indéniables s'ajoutent des qualités de cœur et d'intelligence développées dès son plus jeune âge. Vous l'aurez deviné, Bianca possède une beauté rare et un esprit vif. La Vénitienne ne tarde pas à en jouer. Amoureuse d'un certain Pietro Bonaventuri, un modeste commis de banque, elle s'envole du jour au lendemain du cocon familial et s'installe à Florence. Elle se marie alors avec son Pietro. Au même moment, François, fils aîné de Cosme Ier, s'apprête à reprendre les rênes du pouvoir. Son père a fortifié le duché de Toscane. Il pense donc léguer à son fils un territoire plus apaisé et surtout plus fort. Mais François n'a pas le charisme et les compétences de son père. Il préfère laisser le soin à ses ministres de gérer les affaires politiques, lui préférant s'adonner volontiers à ses passions moins formelles comme les sciences naturelles, la céramique et les femmes. C'est lors d'une balade dans les rues de Florence qu'il serait tombé en pamoison devant la beauté insolente de Bianca Capello. Elle devient rapidement sa maîtresse. Une situation insupportable pour Côme, qui voue désormais à cette Bianca Capello une haine sans limite. Elle détourne à la fois son fils de ses obligations politiques, mais aussi de son destin conjugal. En effet, il a pour projet que son fils épouse l'archiduchesse Jeanne d'Autriche, sœur du nouvel empereur Maximilien II et petite-fille de l'empereur Charles Quint. Il ne peut rêver meilleure partie pour son fils et plus bel avenir pour son duché. Ce rapprochement est primordial pour entériner solidement l'alliance entre les Médicis et les Habsbourg. Le mariage a finalement lieu le 18 décembre 1565. Mais Bianca Capello n'a pas dit son dernier mot. Elle ne veut pas être reléguée au second rang derrière l'austère archiduchesse Jeanne d'Autriche. Alors, elle en demande toujours plus. Des moments d'intimité et des cadeaux. François l'adore et lui fait porter un présent par semaine. Collier, pendentif, rien n'est trop beau pour Bianca. Pas même un palais. Son amant acquiert ainsi une maison à l'abandon, 26 Via Maggio. Ce palais pourra accueillir les amours des deux amants. Comble de la provocation, les initiales de Bianca sont gravées sur le devant du palais et la jeune femme prend plaisir à déambuler dans la ville entourée de son personnel. Les Florentins sont d'abord surpris, puis médusés et enfin excédés. Mais qui est cette femme qui vient troubler le couple princier déjà fort affairé à tenter de donner naissance à un héritier mâle? Pire, François introduit même sa favorite dans des événements officiels, l'archiduchesse Voix Rouge. Elle, qui a été élevée dans la ferveur religieuse et la discipline, découvre la frivolité italienne. et elle n'est pas au bout de ses surprises. Bianca s'apprête à franchir un nouveau cap dans sa conquête du pouvoir. Désormais, plus personne n'a de doute sur le statut de favorite de Bianca Capello auprès du grand-duc François. Cependant, la jeune femme n'est pas satisfaite. Si son amant n'a Dieu que pour elle, la couvre de cadeaux, critique ouvertement sa femme, trop rigide, pourquoi devrait-elle passer au second plan derrière la morne Jeanne d'Autriche? D'autant qu'en août 1576, Bianca Capello offre au grand-duc ce qu'il attend de sa femme officielle depuis des années, un fils. Il s'appelle Antonio. Les mauvaises langues affirment que Bianca aurait payé une jeune femme pour qu'elle lui vende son nouveau-né. Quoi qu'il en soit, le petit Antonio se voit décerner le titre de marquis de Capestrano. Bianca a une longueur d'avance sur sa rivale Jeanne, car l'épouse de François a certes donné 6 enfants à son mari, mais tous les enfants sont de sexe féminin. Aucun héritier à l'horizon. Pourtant, le 20 mai 1577, un garçon, Philippe, voit le jour. François est aux anges. Florence célèbre pendant plusieurs jours l'arrivée de cet enfant prodigue. Mais en avril 1578, à 32 ans, Jeanne meurt épuisée par ses nombreuses grossesses. Le malheur des uns, vous connaissez la suite. Sans plus attendre, Bianca et François se marient la même année. La détestée Bianca pense acquérir cette respectabilité qu'elle recherchait tant. Désormais titrée fille de la République et grande duchesse, elle a pourtant encore une tâche immense qui l'attend pour se faire accepter par ses sujets. La nouvelle duchesse est considérée comme celle qui a éloigné leur prince du droit chemin. Des rumeurs de sorcellerie circulent même à son sujet. François, trop affairé à badiner avec son amour de jeunesse, délaisse l'État. Il ne voit pas la disette s'installer et le commerce diminuer. Alors, à l'occasion d'un dîner dans la villa de Poggio à Caiano, son frère Ferdinand tente de lui faire entendre raison. La suite, je vous l'ai racontée. La mort de François et le lendemain de son épouse Bianca. Ferdinand succédera ainsi à son frère, perpétuant la lignée des Médicis pendant encore 150 longues et riches années.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Bianca Capello, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui lui consacre un livre, Patrick de Carolis. Bonjour Patrick de Carolis.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Patrick de Carolis, faut-il vous présenter? Vous êtes éminent journaliste connu des téléspectateurs, désormais maire d'Arles, mais vous êtes aussi un écrivain connu et reconnu. Après des récits sur les Demoiselles de Provence, La Dame du Palatin et Laetitia Bonaparte, vous publiez avec Carolane Bianca, l'âme damnée des Médicis aux éditions de l'Observatoire. Vous avez développé une passion pour les héroïnes oubliées de l'histoire. Vous écrivez dans le prologue que Bianca doit renaître dans la mémoire des hommes.
Oui, j'aime bien ces destins de femmes comme ça, un petit peu dans l'ombre, effacées par d'autres personnages plus illustres. Et c'est vrai que les héroïnes m'ont toujours passionné. Pendant longtemps, l'histoire a eu tendance à les ignorer ou à leur donner un rôle un peu secondaire. Eh bien, en les faisant renaître à travers un roman, on espère comme ça leur rendre la place qu'elles méritent.
Mais comment vous avez découvert ou redécouvert cette personnalité controversée de Toscane qui était Bianca Capello?
Alors d'abord, on a une passion pour l'Italie et notamment pour cette région de Toscane. Professionnellement, moi j'ai eu de nombreuses occasions de me rendre à Florence, notamment au cours de mes émissions, Des Racines et des Ailes ou dans le cadre du Grand Tour. Et avec ma femme Caroline, nous y sommes allés assez souvent. Et à travers nos lectures, nous avons découvert Bianca. Alors c'était un pur hasard, car elle est assez rarement citée dans les ouvrages historiques. Et son personnage, eh bien, nous a intrigués. Et en poursuivant un petit peu comme ça nos recherches, on s'est attaché à cette femme dont le nom est quasiment oublié, et même en Italie, aujourd'hui, quand vous en parlez, les gens se posent la question en disant « Mais c'est qui? À quelle époque? Ah bon, les Médicis ?» Et nous avons décidé de nous pencher ensemble sur sa vie pour lui permettre, vous l'avez dit, de renaître au regard de l'histoire.
Mais Patrick, c'est bien un oubli volontaire, hein, puisque vous êtes donc parti sur les traces de Bianca Capello à Florence. Est-ce qu'on trouve quand même des indices de son existence, ou bien les Médicis ont vraiment tout effacé d'elle après sa mort?
En tout cas, ils ont tout tenté pour la faire oublier. Et notamment, vous l'avez dit, Ferdinand, le frère cadet de François. Mais même si Ferdinand a tout fait pour effacer sa présence dans les récits, dans le récit dynastique médicéen, eh ben, son souvenir n'a pas entièrement disparu. Et les traces de Bianca, eh bien, apparaissent dans certains écrits ou dans des romans rédigés après sa mort. En tout cas, À Florence se trouve le Palazzo Bianco Cappella, vous l'avez dit, au 26 Via Maggio. Si les initiales sculptées sur le fronton de cette demeure ont été martelées, le palais porte encore son nom aujourd'hui à Florence. En revanche, parmi les très nombreux portraits qu'il a représentés, notamment ceux d'Alessandro Allori, qui était un peintre très en cours chez les Médicis, il ne reste que de rares tableaux. Alors, deux sont exposés à la Galerie des Offices, deux autres au Palais Pitti. Et puis, bien sûr, vous avez la très très belle villa à Poggio a Caiano, où Bianca a vécu ses plus beaux moments avec François avant leur mort tragique. Et on peut visiter l'appartement qui leur était destiné. Et puis, bien sûr, Venise. À Venise, il y a encore une ruelle qui s'appelle Bianca Capello et qui est non loin du Ponte Storto.
Mais Bianca Capello, est-ce qu'elle était aussi détestable que ses contemporains ont voulu le faire croire, ou alors c'était une femme trop libre, trop affranchie pour son époque?
Et nous, avec Caroline, on pense que Bianca n'était pas une femme détestable, en tout cas elle n'était pas celle qu'on a voulu faire croire. D'ailleurs, il existe peu de documents qui attestant cet aspect de sa personnalité. Vous savez, la rumeur peut être destructrice même à travers les siècles, et comme premier, qui était le père de François, ne l'aimait pas. Ferdinand, le frère cadet, l'a détesté, et tous deux, eh bien, on fait courir des bruits désobligeants sur elle. Et puis, quant au peuple, il la considérait comme une gourgandine, comme une courtisane, donc comme une femme de mauvaise vie. Elle venait troubler un petit peu le rêve de ce mariage avec Jeanne d'Autriche, d'où l'insulte de Poutane. Et peut-être que effectivement était-elle trop libre pour l'époque. En tout cas, elle ne méritait pas l'odieux prénom de Pessime. Et à travers les lettres que Bianca rédigeait au moment où elle est devenue grande duchesse, c'est-à-dire à peu près 6 ans avant sa mort, on devine une femme cultivée, une femme affable. Et d'ailleurs, quand on se penche sur la correspondance avec les deux papes qu'elle a connus, Grégoire VIII et Sixte Quint, eh bien, les papes étaient très élogieux à son égard.
Alors, Stéphane le racontait dans le récit, le fait que Bianca Capello soit couverte de cadeaux par François Ier de Médicis suscite aussi l'hostilité de tous les Florentins. Est-ce que vous pensez qu'elle a été victime de la passion excessive de son amant, qui considérait que rien n'était trop beau pour elle?
Oui, nous on en a beaucoup discuté entre nous, entre Caroline et moi, et on est tombé d'accord sur ce point. On pense vraiment que la passion de François Ier de Médicis pour Bianca a été finalement extrêmement nuisible à celle qu'il aimait le plus, parce que son entourage, son père, ses frères, ses conseillers estimaient que cet amour, certes vrai mais passionné, le détournait de ses devoirs de prince, et ils accusaient Bianca d'influencer François dans ses choix politiques, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Quant aux courtisans, alors là la jalousie, les médisances ont alimenté ces rumeurs contre Bianca, en raison de son emprise sur l'homme le plus puissant de la Toscane à ce moment-là.
Bianca Capello se trouve finalement à la tête du duché de Toscane lorsqu'elle épouse son amant de longue date. C'est un duché puissant parmi les autres états qui morcellent la péninsule italienne au XVIe siècle.
Oui, il est extrêmement puissant ce duché, tout d'abord en termes de superficie, et cela depuis la prise de Sienne, mais aussi par sa position géographique centrale sur la péninsule, son accès à la mer via Pise, et tout cela faisait que la Toscane, eh bien, jouait un rôle prépondérant par rapport aux autres principautés qui étaient rivales. Et l'obtention, vous l'avez dit, du titre de grand-duc, comme premier, il s'est battu toute sa vie pour avoir ce titre-là. Et le mariage de François avec Jeanne d'Autriche qui était la fille de l'empereur Ferdinand Ier de Habsbourg, c'est pas n'importe qui, et qui était aussi donc la sœur de Maximilien II, qui va succéder à son père, eh bien, tout ça fait que ils avaient un rang considérable vis-à-vis des autres duchés ou des autres parties de l'Italie. Et il faut ajouter cela une aura culturelle extraordinaire qui magnifiait les Médicis depuis comme l'ancien, et tout cela, eh bien, a accordé à cette famille un lustre exceptionnel pour cette époque.
Patrick de Carlis, vous écrivez que l'action de Bianca Capello pour le duché de Toscane est discrète mais bien réelle. Qu'est-ce qu'elle a accompli pour le duché dans l'ombre de François Ier?
Alors dans le livre, on précise bien que Bianca ne tenait pas un rôle politique de premier plan, et ce n'était pas une sorte de messaline assoiffée de pouvoir, assoiffée d'argent. C'était une femme qui n'aspirait pas à un destin hors norme. Nous, on pense qu'elle cherchait essentiellement une respectabilité qu'elle avait perdue en fuyant Venise. C'était une fille d'une noblesse. Son nom, Capello, était inscrit au livre d'or de la Sérénissime. C'était pas n'importe quoi. Et face à l'adversité, eh bien, il a fallu qu'elle fasse preuve d'intelligence et de diplomatie, ce qui lui a permis non seulement de survivre, mais de devenir grande duchesse. Mmh. Et en termes de réalisation, alors, elle a joué un rôle majeur pour réconcilier les deux frères ennemis. Or, cette détestation entre frères au plus haut niveau de l'État était un danger pour l'équilibre de la Toscane. Et par ailleurs, les mariages qu'elle a pu arranger pour Éléonore, qui était la fille de Jeanne d'Autriche et de François Ier avec le duc de Mantoue, ou le mariage de Virginia, qui était la fille de Comte Ier et de Camilla Martelli, avec César d'Este, ben, prouvait son intelligence des situations. De même, les échanges épistolaires, je l'ai dit, avec le Vatican, eh bien, ont aidé quelque part à arrondir les angles, car le caractère ombrageux de François Ier nécessitait souvent de se montrer un peu plus diplomate.
Mais qu'est-il advenu d'Antonio, le fils de Bianca Capello, après la mort de ses parents?
Alors, à la mort de ses parents, Antonio, il a 11 ans. Il était élevé à la cour au même titre que les autres princiers. Car après le décès de François et de Bianca, Ferdinand Ier, initialement, l'avait spolié de tous ses biens. Mais pour des raisons d'ordre moral, juridique ou diplomatique, il faut le rappeler, Antonio était prince de Capestrano, un titre remis par Philippe II d'Espagne, c'est pas n'importe quoi. Il est revenu sur cette décision. Et là, Antonio a retrouvé une partie de sa fortune, et son éducation princière a été maintenue. Et en revanche, à sa majorité, il a dû s'engager dans l'ordre de Malte et prononcer des vœux de célibat. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une maîtresse et des enfants illégitimes un peu plus tard, mais ça, c'est une autre histoire.
Patrick, à la fin de votre livre, vous évoquez les différentes hypothèses quant aux origines de la mort de Bianca Capello et son époux, et vous enjoignez les lecteurs à se fier à leur intime conviction. Mais vous, c'est quoi votre intime conviction à vous, Patrick? D'après vous, elle a été assassinée, oui ou non?
Ben, écoutez, avec Caroline, nous penchons pour la thèse de l'assassinat. D'abord parce que tous les indices retenus permettent de le penser. Le frère ennemi, Ferdinand, qui fait amende honorable et rejoint les deux êtres qu'il déteste le plus sous un vernis de réconciliation. Le dîner offert par ce Ferdinand pour remercier François et Bianca de le recevoir à Poggio à Cayenne. Or, les deux autres tombent malades en même temps.
C'est bizarre,
il n'y en a pas d'autres. On n'en parle pas des autres. On parle de ces deux-là. Et ces deux-là tombent malades en même temps. Et leurs symptômes sont extrêmement proches de ceux dans l'empoisonnement à l'arsenic.
Oui, donc.
Alors bon, cela dit encore, aujourd'hui, rien n'est prouvé. Hein. Rien n'est prouvé. Il y a deux thèses scientifiques qui se sont affrontées assez récemment, en 2006 et 2010. Deux Italiens, d'ailleurs, celle du professeur Marie et du professeur Fornaciari. Et le doute demeure.
Mais merci beaucoup, Patrick de Carolis, de nous avoir fait revivre l'existence romanesque d'une Médicis oubliée. Je rappelle le titre de votre livre, Bianca, l'âme damnée des Médicis, coécrit avec votre épouse, Caroline de Carolis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Et le livre est disponible aux éditions de l'Observatoire.
Merci à vous.
Merci à vous deux.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires d'hommes et de femmes, et parfois les deux à la fois. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez ces femmes qui ont décidé de prendre tous les défauts des hommes au point de les battre.
Eh oui, et figurez-vous que en lisant quelques éléments de la biographie du peintre Greuze, vous voyez ce peintre Greuze qui pourtant peint de touchantes scènes familiales, et ben j'ai découvert qu'il était marié à une vraie mégère et qu'il était un mari battu. Alors d'abord, savez-vous ce que c'est qu'une mégère? Mégère, c'est vraiment un terme d'homme hein, pour désigner une femme qu'il juge insupportable. On peut dire aussi une pigrièche, c'est un mot tout aussi sympathique. En fait, c'est le mot que Shakespeare Shakespeare a utilisé pour une de ses pièces.
La mégère apprivoisée.
Exactement. Et ben le mot mégère, ça vient de la mythologie grecque. C'est une des trois divinités de la haine et de la vengeance, celle que les Grecs appellent les Erinnies et que les Romains appellent les Furies. Ça vous dit quelque chose? Mégères ou Furies, elles sont très mauvais poils parce que leur père Ouranos, juste après que son fils Cronos lui eut violemment tranché le sexe pour s'en libérer, vous voyez, donc les Furies et les Erinnies, oui, elles sont un petit peu énervées. Mais revenons à Greuze. Alors Greuze, il avait une toute jeune femme qui le trompait beaucoup avec ses élèves à lui et qui le frappait. Et on le sait parce qu'on a le témoignage de Diderot qui un jour se rendait chez Greuze et il entend sa femme qui lui administre des paires de claques. Et il semble même que sa délicieuse épouse ait tenté de le tuer en lui cassant un pot de chambre sur la tête pendant son sommeil. Elle jouait. Donc elle lui volait des gravures, elle les vendait en cachette à des marchands et des amateurs peu scrupuleux. Ah non, c'était vraiment un sacré mariage. Là, c'est une belle mégère. Autre célébrité battue, on a du mal à le croire, Byron. Non. Quand il s'installe à Venise en 1816, il a entre autres maîtresse une certaine Margarita Coni, non, plutôt prédestinée, une véritable mégère, jalouse comme une teigne, et elle lui administrait des châtiments en public à Byron. Et bien sûr, une autre mégère...
Mais il aimait peut-être ça, il y en a...
Ah, mais c'est possible, là, bien sûr, je ne dis pas...
Ne calquez pas vos vices sur les personnages de l'histoire.
Byron était un peu pervers.
Si oui, c'est vrai.
Pour Byron, c'est vrai. Pour Greuze, je ne pense pas qu'il aimait qu'on lui tape dessus. Alors, il y a une autre mégère célèbre, c'est Louise Collet, la maîtresse de Flaubert. Querelleuse, violente, l'écrivain Alphonse Karr avait eu le malheur d'évoquer par quelques lignes ironiques son attelage avec Victor Cousin, dont elle avait eu un enfant. Bon, il est vrai que la formule était désobligeante, d'accord. Mais enfin, elle vint lui planter un couteau de cuisine entre les omoplates. Heureusement, la lame a glissé, ils s'en est tirés. Mais enfin, elle aussi, elle avait le sang chaud. Alors, j'ai lu pour vous, messieurs, Marie battue, un article passionnant de Victoria Vano sur l'inversion des rôles conjugaux. Et elle fait remarquer que si depuis des siècles, on considère que l'homme a le droit de battre sa femme, elle parle même d'une jurisprudence de la brutalité qui s'est maintenue en droit jusqu'au règne de François Ier. En revanche, le fait pour un mari de subir des mauvais traitements de sa femme est considéré comme une faute grave, un délit majeur. C'est un manquement à la condition de masculinité. Le mari battu méritait d'être puni pour avoir laissé flétrir l'honneur de son sexe. Et la peine encourue se nommait la chevauchée. Je vous ai déjà parlé de quelque chose d'équivalent pour les maris impuissants.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, ils étaient condamnés à chevaucher un âne assis dans le mauvais sens. Victoria Vano cite la coutume de Senlis en 1375 qui prévoyait la sanction suivante pour les maris battus. Les maris qui se laissent battre par leurs femmes seront contraints et condamnés à chevaucher un âne, le visage par devers la queue du dit âne. Et on est tenu de dénoncer un mari battu, sinon on subit aussi la chevauchée. Il y a aussi l'usage du charivari. Vous êtes porté par vos voisins dans un concert de casseroles et vous subissez une double humiliation, celle d'avoir été maltraité par votre épouse et celle de voir votre humiliation rendue publique. C'est très grave. En 1566, cette cérémonie est subie par 8 maris de la ville de Lyon. C'est une parade joyeuse à laquelle participe toute la ville en présence des magistrats locaux. Alors que la faute de ces maris, raconte un certain Testefort, il y en a un qui a été battu à coups de bâton ou à coups de cuillère en bois ou de pied de chevalet. Il y en a un qui s'est fait envoyer à la figure une fricassée de tripes. D'autres qui se sont fait envoyer des cailloux par leur femme. Par ailleurs, il y a une joyeuse compagnie qui conduisait un chariot où il y a voit une femme qui batoie son mari, lui baillant grand coup de pied au génitoire et après grand coup de pierre. Alors là, lui, il a fait la chevauchée charivari et tout le toutime. À la fin de son ouvrage, l'auteur dénonce ces lâches maris qui, contre l'ordre de Dieu et devoir de nature, se laissent ainsi battre, mutiler et subjuguer par leurs femmes. Ils sont indignes de porter le nom d'homme, nous dit Testefort. Voilà. L'époque est d'ailleurs riche d'adages qui enseignent que la femme se dirige comme un cheval. Tel bon cheval, mauvais cheval, veut l'éperon. Bonne femme, mauvaise femme, veut le bâton. Nous dit-on. Alors, la chevauchée, messieurs, par chance pour vous, disparaît en droit.
C'est vous qui racontez tout ça.
Oui, parce que
si nous, on s'était permis de dire un tiers de ce que vous racontez à l'antenne, mais on serait déjà.
C'est ça qui est rigolo. En tout cas, c'est une pratique qui a survécu jusqu'au tout début du XXe siècle. Eh bien, concluons par cet adage turc qui nous dit que lorsque la violence entre dans la maison, l'ordre et la justice s'en vont par la cheminée.
Bah c'est écoutez, beau, mais Erdogan devrait méditer
cette belle citation. C'est tout ce que j'ai trouvé.
Merci beaucoup, Clémentine.
Et vous restez avec nous.
C'est bien que vous me remerciez.
Hein, vous allez enfin pouvoir battre quelqu'un.
Vous savez, c'est de la politesse, c'est la courtoisie. Hein.
Mais après le sujet que je viens de traiter, je trouve ça bien aimable. À vous, je vous ai fait peur, je pense.
Mais ça vous a fait peur, mais en même temps, je sens que ça vous a un peu excité, Stéphane, aussi, cette histoire de se faire battre par quelqu'un, par une femme.
Lord Byron aimait les choses un peu épicées.
Oui, mais j'en connais d'autres. À tout de suite pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quand il remporte, car ça lui arrive parfois, notre célèbre quiz, alors Stéphane dévoile son vrai visage. Non pas celui qu'il aime à se donner dans Secret d'Histoire d'un homme à la courtoisie toujours impeccable, mais celui d'un compétiteur assoiffé de victoire qui, lorsqu'il en tient une, décroche un sourire vengeur à Clémentine en lui disant
« Ah, ça calme, hein ?»
Jouons à Bern to be alive. Stéphane, première question, elle est pour vous. Au XVIIIe siècle, on savait rire. Ainsi, pour se moquer de Charles X, on disait « Le prince, ayant eu une indigestion de gâteau de Savoie, va prendre du thé à Paris. » L'expression « prendre du thé » sous-entendait qu'il faisait semblant de vivre chichement, alors qu'en fait, il menait grand train. Vrai ou faux ?
Je crois que cette histoire est tout à fait authentique. J'ai juste un petit problème, Charles X, c'est le 19e siècle.
Oh, je pense que c'est une petite erreur. On est bien au 19e.
Je pense qu'il est... Ou alors... Je pense qu'il était déjà comte d'Artois et c'est vrai qu'il menait grand train à Paris puisqu'il avait Bagatelle qui était la résidence du comte d'Artois, futur Charles X.
Et donc, quelle était l'expression ? Il va prendre le thé à Paris.
Le prince, ayant eu une indigestion de gâteau de Savoie, va prendre du thé à Paris.
Mais c'est parce que gâteau de Savoie, c'est sa femme. C'est une des deux sœurs de Savoie qui devait tromper assidûment.
Donc, l'expression.
Elles étaient tellement laides aussi, les pauvres.
Donc, l'expression prendre du thé sous-entendait qu'il faisait semblant de vivre chichement alors qu'en fait, il me dégrandit.
Non, ça doit voler. C'était son 5 à 7 à Paris, c'est plutôt ça.
Voilà, c'est ça.
Son 5 à 7. À Paris.
Donc, je dis non parce que tout ce que vous racontez, il en pouvait plus son gâteau de Savoie et il venait à Bagatelle pour faire la Bagatelle. Voilà.
Vous avez gagné.
Et moi, je dirais un demi-point. On verra en fin d'émission. Ne crachez pas sur les succès des autres. Comment dirais-je, le sens réel de cette expression. Et moi, j'attendais de quelqu'un de votre niveau culturel d'avoir l'explication totale de la blague. Le prince, ayant eu une indigestion de gâteau de Savoie, sa femme, qui était laide, va prendre du thé à Paris. Effectivement, il monte à Paris, mais va prendre du thé. Pourquoi du thé ?
Parce que Madame Duté, qui était Rosalie Duté, était
sa maîtresse. Oui. D'où l'expression prendre du thé.
Je vous l'ai dit.
Mais vous m'avez rien dit
non,
tout ça.
Vous l'avez pas dit, mais vous le saviez.
Je le savais.
Mais dites-le alors.
Ben, je vous le dis.
Mais vous me l'avez dit.
D'ailleurs, je viens de vous le dire si vous réécoutez la bande.
Oh là 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 là. Vous essayez vraiment de m'entourlouper.
Je veux mon point.
Vous avez pour l'instant votre point. Question numéro 2 pour vous, Clément. Sur une tablette en argile babylonienne, vieille de 3500 ans, pour l'avoir d'ailleurs cette tablette au British Museum, il est possible de lire la plus vieille blague écrite de l'histoire de l'humanité. Vrai ou faux ?
Oui, je pense que c'est vrai.
Il n'y a pas eu beaucoup de réflexion là. Souvenez-vous de ce que je vous dis, parfois, je vous dis. Souvent, longue réflexion amène bonne réponse.
Alors, ce n'est pas la première blague, c'est la première recette de cuisine, c'est la première...
Pensez-vous que les Babyloniens étaient du genre à faire des blagues ?
Bon, je pense que les Babyloniens étaient comme vous et moi et qu'ils devaient bien aimer rigoler entre deux arrosages des jardins de Nabucodonosor.
Abba, d'ailleurs, a fait une chanson.
The Streets of Babylon. Vous êtes fou, Stéphane.
Bon, vous voulez que je dise non, c'est faux, mais parce que ça n'est pas une recette.
Moi, j'anime.
Oui, mais vous êtes
quiz.
Là à m'expliquer que quand je réfléchis longtemps, je trouve mieux que quand je réponds spontanément. Donc, ça ne serait pas la première recette de cuisine.
Non, on parle de blague.
Ah, de blague, blague, oui, de blague, de blague.
Ils étaient rieurs, les Babyloniens.
Tiens, enlève comment vas-tu, et toi la matelas, un truc comme ça. Non, alors je dis non, c'est non. Ça doit être une recette de cuisine ou un truc comme ça.
Vous avez...
Je vous ai aidé parce que c'était impossible de trouver. C'était pas du tout une blague. Sur cette tablette, il est dessiné le premier fantôme de l'histoire de l'humanité. L'esprit est dessiné en blanc. Il accompagne un autre personnage dans l'au-delà. Il n'est visible qu'avec une certaine lumière, sous un certain angle. C'est le premier fantôme dessiné de toute l'histoire de l'humanité.
Étonnant.
Question numéro 3 pour vous. Je rappelle qu'il y a pour l'instant égalité entre nous. Question pour vous, Stéphane. 1976, c'est la création de la société Apple. Le 20 septembre dernier, c'est la sortie de l'iOS 15. Stéphane, c'est le logiciel qui permet de faire fonctionner votre iPhone. Eh bien, dans cette nouvelle version, vous pouvez envoyer par texto un smiley avec une perruque de Louis XIV. Vrai ou faux ?
Attendez. Excusez-moi, on est bien dans Historiquement Vôtre. C'est bien un quiz d'histoire.
Eh bien, mais ce ton que je n'apprécie pas beaucoup, je vous le dis, Stéphane, ce ton que je n'apprécie pas beaucoup.
Ne soyez pas dubitatif, Stéphane,
vous
parce
allez,
que si c'est vrai,
vous
je allez pense
découvrir.
Que ça va vous ouvrir des horizons.
Oui, alors, et vous allez découvrir la réponse qu'on est vraiment au contraire dans l'histoire,
oui,
l'histoire qui se joue en ce moment.
C'est un smiley à binette, si je comprends bien.
Donc un smiley à binette, exactement, avec la perruque de
Louis XIV.
Notre bon roi.
Est-ce que
écoutez,
c'est possible?
je veux le croire, la binette à Louis XIV.
Vous avez...
Alors, Stéphane, déception.
Quelque part, je vous donnais la réponse pourtant, hein, puisque je vous ai dit que cette question, la réponse de cette question serait historique pour l'histoire qui se joue en ce moment. Pensez-vous vraiment que ça soit l'histoire qui se joue maintenant si on avait inventé un smiley avec la perruque de Louis XIV?
Bon,
ça n'aurait pas fait avancer le schmilblick, ça ne va pas dans le sens de l'histoire.
Non, mais ça pourrait être une des nouvelles possibilités de cet iPhone parmi mille autres.
Mais non! Puisque ça n'aurait pas de sens. Aujourd'hui, beaucoup plus utile, grâce à cette nouvelle version d'iOS 15, vous allez pouvoir écrire un point médian. Qu'est-ce qu'un point médian ? C'est comme un trait d'union, sauf que c'est un point. Et c'est essentiel quand on veut s'exprimer en écriture inclusive.
Je sais que c'est un combat qui vous tient à cœur, Stéphane.
C'est l'histoire.
Vous nous avez appâté avec le smiley à binette, tout ça pour finir sur l'inclusive.
Écoutez, déjà, apprenez à écrire parce que vous avez entendu tout ce qu'on entend là.
Apprenez vos participes passés, puis vous nous viendrez nous parler de smiley à binette
pour 8 employeurs sur 10.
Alors, Romain, remets-moi une suze. Question numéro 4, Clémentine. En 1976, ça n'a aucun sens. En 1976, c'était la naissance d'Apple.
Oui.
En 1916, William Boeing fonde la Boeing Company. Progressiste, la société a fait en sorte d'embaucher tout au long de son essor économique un quota de personnes de couleur parmi ses ouvriers pour que la croissance profite à tous. Et ça, c'est beau. Vrai ou faux ?
C'est faux.
Pas très généreux, hein, de votre part.
C'est faux.
Vous dites que c'est faux. Pourquoi ? Vous insultez la famille Boeing ? Vous insultez la mémoire de William Boeing ?
Je dis que c'est faux parce que dans le lendemain de la guerre de 14, avec le retour de toutes les troupes d'Europe, ils s'étaient battus et les femmes avaient occupé des emplois. Il y a eu des problèmes massifs de chômage et j'ai du mal à croire que Boeing, fort généreusement, ait consenti une place quelconque et privilégié à un certain quota de noirs. Ça ne me paraît pas dans l'esprit de l'époque. Je dis faux.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse, Clémentine. Bravo.
Dégueulasse.
C'était même l'inverse. William et sa femme, Bertha Boeing, ont massivement investi dans des terrains au nord de Seattle, tout en interdisant la location aux personnes qui n'étaient pas de race blanche, voilà, qui n'est pas jolie. Et normalement,
et ben vous gagnez,
sauf
bravo.
Que non, qu'est-ce puisque on m'a dit, et non, tout à l'heure, j'ai aidé. On m'a dit en régie, j'ai trop aidé.
C'est vrai, il m'a aidé sur la tablette. Il m'a aidé sur la tablette cunéiforme, j'allais mal répondre, c'est vrai.
Et donc, un point est retranché.
C'est justifié,
Clémentine.
Je ne fais pas de contestation.
Nous passons à la question 5, c'est la question rapidité. Soyez bien concentrés, car il y a 5 propositions aujourd'hui, c'est beaucoup pour vos petits cerveaux. Parmi ces danses médiévales, vous aimez danser. Parmi ces danses médiévales, laquelle n'est pas du tout une danse médiévale ? 5 propositions. Le branle du rat.
Oui, le branle,
la
bien
chaconne.
Sûr. Le branle, c'est la chaconne,
La brandouille.
C'est la brandouille.
La gaillarde. Et la courante.
C'est la courante. C'est la brandouille.
La courante, j'adorerais.
La courante, Stéphane ?
Non, c'est une danse, la courante, bien sûr.
Oui,
c'est la brandouille.
Victoire totale aujourd'hui de nos deux compétiteurs.
Oh bah, oh.
Pourquoi ? Bah si, vous avez tous dit la brandouille. Oui, vous avez dit pour rire la brandouille.
Ah non, bien sûr. J'ai dit pour rire, j'avais dit la brandouille.
Oui, en fait, c'était pas tout à fait pour rire. Vous avez essayé, t'as des reins. Oui, oui, oui.
J'aurais adoré que ce soit
faux jeton.
Elle l'a dit avant, c'est donc Clémentine qui triomphe. Voilà, je suis désolé.
Mais la brandouille, c'est pas une danse, mais la branle, le branle, c'est
la
danse. C'est la danse par laquelle commencent tous les bals, et c'est celle dans laquelle le roi choisit sa partenaire. Et la volte, c'est le monsieur qui se met derrière la dame, il lui donne un grand coup de genou dans le postérieur et il l'a fait.
C'est pas très MeToo tout ça. Mais connaissez-vous le sens de la danse qu'on appelle la branle du rat? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle branle du rat? Le branle du rat, pardon. Pourquoi le branle du rat? C'était une danse de jeunes mariés qui consistait à frapper très fort le plancher pour faire fuir les rats et protéger ainsi le grain. Petite info en plus, comme
fort
ça.
Fort instructif, merci
protéger
beaucoup.
Protéger le grain, c'est important au soir du mariage. Bravo à tous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, 2 heures d'histoire qui filent comme 2 heures d'EPS et sans verser une goutte de sueur, en compagnie de celui qui pourtant peut légitimement être qualifié de sport addict.
Une, deux. J'essaie de sculpter mon corps.
Et de l'avis général, Stéphane, c'est fort réussi.
Oh, je vous remercie, Mathieu. Le compliment me toucherait si je ne vous savais pas si myope.
Oh, j'y vois suffisamment pour lire le programme. Aujourd'hui, farouchement affranchies, elles ont défié leur époque.
Oui, Mathieu, 3 formidables effrontées. Après Bianca Capello, qui a défié les Médicis, je vous raconte Maya Plissetskaya, une danseuse étoile qui...
vous l'avez tenté, mais c'était pire.
C'était pire.
Maya Plissetskaya.
Une danseuse étoile qui, dans la Russie soviétique, n'a pas hésité à défier la faucille et le marteau.
C'est courageux, Stéphane. Et du courage, mon personnage n'en manque pas. Je vous raconte Asha Mohamed, une femme chauffeur de taxi dans un pays où on préfère voir les femmes à la maison que derrière un volant, la Somalie.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs, David Castel-Lopez, qui nous raconte les origines du Nyan Cat.
Le Nyan Cat, exactement. Nyan, vous savez ce que ça veut dire?
Non.
C'est l'équivalent japonais de miaou. C'est juste que les chats au Japon, ils font pas miaou. Et je vous raconterai, c'est un grand phénomène d'Internet.
Puis, avec Olivier Pouls, eh bien, nous remonterons aux origines du café viennois, liégeois, enfin du café gourmand, quoi.
Parce que le café gourmand, c'est une invention dont David nous a parlé il y a quelques temps déjà. Cette espèce de truc inventé pour vous vendre hors de prix un café avec trois trucs autour.
Il y a deux cafés liégeois. Il y a celui qu'on trouve dans le commerce sous l'appellation café liégeois, qui n'a rien d'un café liégeois. C'est une espèce de yaourt.
Oui, alors ça, exactement.
C'est très, très bon.
Mais le vrai café liégeois, ça peut être un dessert aussi. Ça s'est décliné aujourd'hui en dessert.
Avec la chantilly.
De la glace. Mais vous verrez la différence entre liégeois et viennois. Et puis, il y a une histoire assez amusante sur l'origine de ce café.
Enfin, après un bon café liégeois, que diriez-vous d'une bonne basson? Ce sera une lutte et elle sera finale, d'où son titre. Rendez-vous vers 6h moins le quart pour la grande explication qui départagera sur des questions plus ou moins historiques. Mmh. Olivier, David et moi, mais pour l'heure, replongeons-nous au bon vieux temps de l'Union soviétique. Époque rieuse, s'il en est, ou pas, comme nous le raconte Stéphane. Elle danse, elle vole, elle survole même de sa grâce toutes les attaques dont elle a été la victime jusqu'à sa mort. Stéphane Bern nous raconte Maya Plissetskaya, une étoile de la danse qui s'est farouchement opposée à la faucille et au marteau soviétique.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1967 au théâtre du Bolchoï à Moscou. Le regard déterminé, le buste fier et les bras inflexiblement tendus, la prima ballerina assoluta, Maya Plissetskaya, bouleverse estomac, asphyxie presque le public présent dans la salle. Avec le ballet Carmen Suite, la soliste de 42 ans a le courage de danser une chorégraphie audacieuse, moderne et même érotique dans la très traditionnelle et corsetée URSS de l'époque. Ses cheveux noirs, sensuellement relevés, ses pirouettes voluptueusement enlevées, Maya ne joue pas Carmen, elle est Carmen, séductrice, provocatrice, subversive. Les dirigeants soviétiques crient au scandale. La danseuse, elle, s'en souviendra toute sa vie et confiera plus tard à propos de ce ballet, c'était la guerre. On m'a accusé d'avoir trahi la danse classique. Le ministre de la Culture a dit que Carmen mourrait. Je savais que je mourrais, moi, mais que Carmen vivrait. Cette volonté de régler des comptes avec l'élite dirigeante, la ballerine la puise dans son histoire personnelle. Maya Plissetskaya naît le 20 novembre 1925 à Moscou. Son père, Mikhail, travaille comme ingénieur dans les mines d'une concession russe. Sa mère, Rachel, est une figure reconnue du cinéma muet. Très tôt, Maya
développe une passion évidente pour la musique et la danse. Elle échappe un jour à la vigilance de sa mère, attirée par des notes de musique. Au beau milieu de la rue, elle se met alors à tournoyer avec une élégance et une dextérité telle que les passants interrompent leur chemin pour apprécier ce spectacle improvisé. Mais cette enfance radieuse, rythmée par les pas de danse et les câlins de ses parents, prend subitement fin. L'heure des grandes purges a sonné. Et visiblement, la famille de Maya dérange le régime. En 1937, son père est emprisonné, puis exécuté sur ordre des dirigeants soviétiques, car considéré comme un ennemi du peuple. Sa mère, elle, est déportée au Kazakhstan, dans un camp de travail avec son plus jeune fils. Sans parents, Maya est accueillie dans un cocon familial bienveillant chez sa tante. Là-bas, elle découvre un univers qui la fascine, la danse. Sa tante est ballerine, son oncle, professeur au Bolchoï. Maya Plissietskaya intègre donc la prestigieuse école. L'élève se révèle être une acharnée du travail. Entre chats, grands jetés, arabesques, Maya répète les mêmes mouvements, inlassablement. Ses entraînements douloureux pour le corps et parfois l'esprit sont pour elle l'unique moyen de garder vivante la mémoire de ses parents. L'art m'a sauvé. Je me suis concentré sur la danse et je voulais que mes parents soient fiers de moi, expliquera-t-elle. Et ses efforts payent. En 1943, diplômée de l'école de danse, Maya Plissietskaya entre officiellement au ballet du Bolchoï et commence sa carrière. Sur scène, c'est sur elle que se portent tous les regards. Au-delà de sa technique inégalable, Maya Plissietskaya irradie par sa personnalité, son aura, son magnétisme. Alors que les autres danseuses russes semblent moulées sur le même modèle, Maya, elle, ne rentre dans aucune catégorie. On la surnomme même la Calas de la danse. Car si son corps ondule, se projette et se cambre, son visage, lui, menace, exulte et se cabre. Plus qu'une danseuse étoile, Maya est une tragédienne. Elle sublime les ballets du répertoire traditionnel russe comme Raymonda ou Le Lac des Cygnes. Comment ne pas succomber à son interprétation viscérale de la mort du cygne, preuve de son talent? Elle dansera cette œuvre magistrale près de 800 fois. Mais plus la danseuse envoûte son public, plus elle irrite l'élite soviétique. Maya ne fait pas l'unanimité auprès des austères dirigeants communistes. Elle pourrait se contenter des ballets classiques russes. Niet! Plissetskaya veut embrasser tous les styles, même les plus sulfureux. Parmi eux, le très controversé boléro de Ravel, mis en scène par Maurice Béjart. Forcément, ce statut a un prix et Maya va le payer cher. Le parti voit d'un très mauvais œil ses choix artistiques transgressifs. Son corps transpire la sensualité, inimaginable pour l'URSS de l'époque. Mais on l'utilise. Elle est présentée à tous les dirigeants étrangers en visite à Moscou. Elle devient très vite le symbole d'un bloc communiste performant, un modèle de réussite que les autres pays ont tout intérêt à suivre. L'État veut en faire une marionnette au service de la propagande. Maya Plissietskaya se souviendra à vie de ce 22 décembre 1949 où elle a dû danser pour l'anniversaire de Staline. J'avais peur, j'étais morte de trac et le parquet était une véritable patinoire. Je scrutais sans cesse le public, cherchant qui était responsable du malheur de ma famille. Pantin officiel en tutu dans la lumière, mais dans l'ombre, Maya résiste. Elle virevolte de succès en succès à l'étranger, triomphe en Europe, éblouit aux États-Unis. Son rapprochement avec la famille Kennedy au pays du capitalisme lui vaut d'être encore plus surveillée par le KGB. Elle reste aux yeux de l'État soviétique une fille de traître du peuple. Et lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'est pas restée à l'Ouest, la rebelle Plissietskaya répond « J'avais peur qu'il me tue. Combien de fois est-ce arrivé à des dissidents? Ils ont été innombrables. Mon époux et ma famille restaient en gage en Russie. Je savais ce qui les attendait si je ne revenais pas. » Alors, en signe de résistance, Maya rapporte de ses voyages des tenues extravagantes dénichées à New York. Elle se lie d'amitié avec les indomptables Coco Chanel, Pierre Cardin ou Yves Saint-Laurent et Jean-Paul Gaultier qui lui créeront des costumes. La danse est pour Maya son arme de résistance. Malgré les années, elle continue de se produire. Pour ses 80 ans, en 2005, elle foule même de nouveau la scène du Bolchoï. Une occasion pour elle de se remémorer sa vie. « Je suis né à Moscou, au royaume de Staline, puis j'ai vécu sous Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, Tchernenko, Gorbatchev, Yeltsin, et j'aurais beau faire, jamais je ne renaîtrai une seconde fois. Vivons notre vie, et je l'ai vécu. Je n'oublie pas ceux qui ont été bons pour moi, ni ceux qui sont morts, broyés par l'absurde. J'ai vécu pour la danse, je n'ai jamais rien su faire d'autre. Merci à cette nature grâce à laquelle j'ai tenu bon,
Je ne me suis pas laissé briser. Je n'ai pas capitulé. Ainsi va la vie de Maya Plissietskaya, une étoile au pays du marteau et de la fossile, qui a fini de briller en 2015.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Maya Plissietskaya, nous sommes avec la journaliste Ariane Dollfus. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Bonjour Ariane Dollfus, vous êtes journaliste et écrivaine. Vous avez écrit les biographies des célèbres danseurs Rudolf Nureyev et Moritz Béjart, dans lesquels on croise immanquablement la figure de Maya Plissietskaya. À quand un ouvrage consacré à cette seule et unique immense danseuse russe?
Eh ben bientôt, j'espère. Pour l'instant, je travaille avec d'autres danseuses, mais... Oui, parce que c'est passionnant, son destin. Vous l'avez très bien décrit. Hein.
Un très beau livre. Alors, Stéphane l'a raconté, le talent inégalé de Maya Plissetskaya servait au pouvoir soviétique, qui l'utilisait pour rayonner au-delà des frontières de l'Union soviétique. Ça la rendait intouchable, en quelque sorte. C'est grâce à cette aura qu'elle a pu, se permettre de transgresser les codes.
Oui, tout à fait. Et elle le savait elle-même. Et le pouvoir le savait très bien. C'est sûr que quand on devient une icône et un symbole et un outil de propagande parce que on a un talent d'exception. À l'époque, c'était important que le ballet était devenu un soft power, en fait, hein, dès les années 45, dès la guerre froide. Donc, elle était un outil de beauté du régime, et donc ça cachait le reste, bien sûr.
Mais il y a quand même une forme d'ambiguïté chez Maya Plissetskaya. Elle se produit devant les représentants d'un régime qui a provoqué la mort de son père. Pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais fait défection au régime soviétique?
Eh ben par amour, parce qu'elle avait un mari, Tchoudrine, qui était compositeur, et lorsque Maya Plissetskaya sortait en Occident, eh ben le mari restait. Mmh. Et donc elle a décidé de ne jamais trahir son mari et de ne jamais trahir son pays aussi, quand même. Hein. Mmh. Mais c'était vraiment par amour pour son mari, très clairement.
Alors, Stéphane a raconté qu'on l'a surnommée la Callas de la danse. Qu'est-ce qui fait qu'elle était différente des autres? Qu'est-ce qu'elle avait, Maya Plissetskaya, de plus que les autres danseuses de son temps?
Eh ben, elle cochait toutes les cases, en fait. Elle était d'abord fallait la voir sur scène, hein. Quand elle arrivait, c'était un lion dont on ouvrait la cage et elle prenait la scène et elle dévorait tout. Et puis elle avait un corps tout à fait exceptionnel, surtout le haut du corps, hein. Elle avait un coup de cygne incroyable et puis des bras, et elle savait jouer de ça, de ces fameux bras qui ondulaient. Et c'est pour ça qu'elle dansait très très bien le lac des cygnes ou la mort du cygne, parce qu'elle savait reproduire, voilà, à la fois les clapotis de l'eau et le battement d'ailes.
Et est-ce qu'elle a signé des chorégraphies durant sa très longue carrière?
Oui, dans les années 70-80, des chorégraphies sur les musiques de son mari, La Mouette, Anna Karénine aussi, mais c'est pas ce qu'il y a de plus majeur. Et puis c'était pour elle, en fait.
L'une de ses danses les plus controversées, c'est son interprétation de la version du boléro de Maurice Béjart sur une musique, évidemment, de Maurice Ravel. Qu'est-ce qu'il y a de tellement subversif dans cette danse
aujourd'hui?
Dans votre biographie de Béjart, vous racontez qu'en 1974, Maya Plissetskaya le supplie de lui donner sa version du boléro.
Oui, en fait, Béjart disait lui-même que c'était une sorte de striptease. Alors, vous imaginez, pour l'époque, quand on est dans un régime où Béjart avait voulu déjà aller danser en Union soviétique, et la ministre de la Culture de l'époque, qui sévissait, qui évidemment avec des fourches codines, disait « Ah non, Béjart, c'est le sexe ou Dieu, et nous ne voulons ni Dieu ni sexe. » Mais elle a réussi, c'est ça là où elle est très forte, Plissetskaya, c'est que elle a réussi à aller le danser en Belgique et à le ramener ensuite en Union soviétique. La ministre était morte, donc elle n'a pas vu ce...
Elle a dansé près de 800 fois le lac des cygnes de Tchaïkovski, un incontournable évidemment du répertoire russe. Quels sont les autres grands classiques du ballet en Russie?
Il y en a beaucoup. Il y a tous les ballets de Marius Petipa, le français, Casse-Noisette, le Lac des Cygnes, La Belle au Bois Dormant, Raymonda, qu'elle a dansé aussi, Roméo et Juliette, qu'elle a, sur la musique de Prokofiev, que Plissetskaya a dansé aussi. Il y a une foule de répertoires que les soviétiques et les russes aujourd'hui savent très bien conserver.
Et est-ce qu'elle finit par quitter l'URSS à la fin de sa vie? Parce que elle aurait été pressentie pour diriger le ballet de l'Opéra de Paris.
Oui, absolument. Alors ça, j'ai découvert ça quand j'ai travaillé sur Nureyev. En fait, en 83, François Mitterrand et Jack Lang décident de faire venir Nureyev et le KGB vient voir les responsables de l'opéra en disant non, ça va pas être possible. C'est vraiment une offense pour nous, sous-entendu. Mais enfin, si vous voulez, on peut vous donner Maya Plissetskaya. Et l'interlocuteur qui m'a raconté ça, il lui a répondu, ah ben non, ça y est, on vient de signer. Et donc, du coup, elle a signé au Ballet de Rome. Mais et ensuite au Ballet de Madrid.
Et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Maya Plissetskaya? Est-ce que les Russes d'aujourd'hui cultive la mémoire de cette immense danseuse.
Ah ben complètement, complètement. C'est une diva. Hein. Quand vous allez à Moscou, vous avez du street art. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Un immense portrait de Plissetskaya qui fait tout un immeuble. Elle est vénérée comme les Russes savent bien faire d'ailleurs. Ils savent vénérer leurs icônes.
Vénérée mais pas remplacée. Est-ce qu'il y a une nouvelle une danseuse étoile qui l'a remplacée dans le cœur des Russes ou qui est une star actuellement?
Oui. Oui, il y en a plusieurs. Je pense notamment à Zakharova, au Bratsova, au Mariinsky, et puis Zakharova au Bolchoï en ce moment.
En ce moment même.
Mais tout à fait. Il y a une chose un peu étrange. Quel rapport elle entretenait avec d'autres danseurs qui, par exemple, avaient été passés à l'Ouest? Je pense justement à votre idole Rudolf Nureyev ou avec Baryshnikov, par exemple, qui était un autre danseur qui a dansé très tard encore, même à l'Opéra de Paris.
Ah ben absolument. Ah mais ils étaient très copains. Et ce qui est amusant, c'est que Nureyev cherchait toujours à la rencontrer parce que Nureyev adorait retrouver ses racines. Et un jour que Plissetskaya était en tournée à New York, elle raconte qu'elle a reçu un bouquet de fleurs dans sa chambre d'hôtel. Et puis c'était juste marqué « Espère vous voir bientôt » en anglais, non signé. Et le lendemain, il y a un type du KGB qui arrive dans la chambre, qui regarde le bouquet et dit « À votre avis, ça vous ferait quoi si Monsieur Nureyev venait vous voir ?» Et là, elle a compris. Et en fait, ils se sont toujours revus et Nureyev arrivait en douce toujours. Il arrivait à se faufiler et à saluer sa congénère.
Vous n'avez plus qu'à écrire le bouquin maintenant.
On l'attend. Merci beaucoup Ariane Dolfus de nous avoir emmenés sur la scène du théâtre du Bolchoï. Votre dernier livre, Béjart, le Démiurge, est disponible aux éditions Artaud et je précise également que les mémoires de la danseuse russe, moi, Maya Plissetskaya, sont parues chez Gallimard.
Merci à
beaucoup.
Vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque ces femmes farouchement affranchies et qui ont défié leur époque. Après Bianca Capello et Maya Plissetskaya, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon, à 99% vrai, d'une affranchie encore en activité, Asha Mohamed.
Chaque après-midi, David Castello-Lopez nous fait découvrir les origines d'une invention. Le frigo, les Lego, les missiles hypersoniques. Mais il y a une invention sur laquelle il n'a pas encore enquêté, et c'est dommage, c'est la machine à connard. Aussi appelée la route ou la chaussée, cet espace public où les plus tendres d'entre nous se changent une fois derrière le volant de leur bagnole en insondable connard.
Espèce de malade, abruti,
et pas gros lard.
Qui n'a jamais traité un autre conducteur faisant trois fois son gabarit de sombre con seulement après avoir vérifié que sa vitre était bien fermée? Qui n'a jamais klaxonné d'impatience une bagnole à l'arrêt devant nous trois secondes seulement après que le feu soit passé au vert? Qui, le lendemain, n'a jamais fait un doigt d'honneur dans le rétroviseur au conducteur derrière nous qui nous klaxonne trois secondes après que le feu soit passé au vert? Qui n'a jamais dépassé avec vigueur en faisant crisser ses pneus inutilement juste pour le plaisir de faire savoir au type qui roulait à la vitesse réglementaire que son existence à ce moment-là nous gênait? David, vous enquêterez quand vous aurez évidemment votre permis. Une chose est sûre, la route est le lieu qui nous donne à voir la pire version de nous-mêmes. C'est là qu'on est le plus grossier, une sorte de syndrome Gilles de la Tourette temporaire. C'est là qu'on est le plus sexiste et c'est là aussi qu'on est le plus infect envers les taxis sur le thème « V'là qui se croit tout permis, l'autre con parce qu'il écrit taxi sur le toit de sa merco ». Eh bien, mon héroïne du jour a choisi de rajouter une difficulté supplémentaire, être une femme, chauffeur de taxi, en Somalie. Mission impossible, pas pour la valeureuse Asha Mohamed, 19 ans. Sur l'échelle des trucs invraisemblables, conduire un taxi quand t'es une femme de 19 ans à Mogadiscio, c'est juste derrière lire un extrait du journal érotique de Julien Green quand tu es Stéphane Bern.
Allez, je me lance.
Non. Non.
Je vais voir Benga ce
non.
soir.
Oui, non.
Espérons qu'il me s***. J'en compte bien.
Un moment très pénible dans mon existence.
Oh non, c'est un moment délicieux dans votre existence. Ne dites pas n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose d'inimaginable qui va à rebours de ce qu'on connaît. Car la Somalie, c'est une sorte d'Afghanistan discret. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce pays autrement que lors des collectes de paquets de riz à l'entrée des écoles primaires dans les années 90, c'est un pays situé à l'extrémité de la Corne de l'Afrique et qui vit dans le chaos économique, religieux et politique le plus total depuis la chute du régime militaire en 91. Pays très conservateur et considéré comme l'un des plus dangereux de la planète, en raison notamment des nombreux attentats terroristes terroriste perpétré sur son sol. Farouchement affranchie, vous allez voir qu'Acha Mohamed l'est. À 19 ans, elle est déjà divorcée, mère célibataire de deux enfants, et exerce donc le métier de chauffeur de taxi à Mogadiscio, la capitale où Carrefour et Checkpoint sont toujours les premières cibles d'attentats terroristes. Mariée à 16 ans, elle divorce 3 ans plus tard, ce qui est déjà en soi une révolution absolument délirante pour le pays où un islam très conservateur domine. À un âge donc où, avec David, on jouait encore à nos petits soldats de plomb. Acha, elle avait déjà la responsabilité de toute une famille à porter. Devant subvenir aux besoins de ses enfants, elle qu'elle élève seule, elle décide alors de trouver un emploi. Là, elle se pose cette question qu'on devrait tous se poser au moment de choisir une orientation professionnelle. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite et que je jouais à la grande seule dans ma chambre? Bon, alors après, ça fonctionne pas pour tout le monde. Si je m'étais écouté, je serais devenu cow-boy chasseur de dinosaures. Pas sûr que la filière recrute des masses. Stéphane, vous étiez qui quand vous jouiez seul dans votre chambre, petit?
Je rêvais d'être cuisinier.
Cuisinier, alors oui. Ça c'est un scoop Europe. Hein. Vous ne rêviez pas d'être roi et...
Non.
Ah non, pas du tout, cuisinier.
Ok, oui, je faisais la cuisine et j'adorais ça.
Ah ben ça, on peut dire que c'est raté. Hein. Ouais. Enfin, vous avez un cuisinier, c'est
non, mais
c'est bien
je
joué.
Serais capable de vous faire...
C'est vrai?
Ah oui, je peux vous faire...
Une omelette, comme moi, quoi.
Mais plus que plus ça, mais oui, j'adorais faire les gâteaux, par
rendez-vous
exemple.
Rendez-vous
est pris. J'aurais été pâtissier, voilà.
Pâtissier, rendez-vous est pris, le meilleur pâtissier. Eh bien, Acha, elle, depuis toute petite, elle se voyait pilote. Quand j'étais petite, j'étais passionnée de voiture, je voulais devenir pilote un jour. Je ne pensais pas devenir chauffeur de taxi, mais quand la compagnie de taxi Ricab a été créée l'année dernière, j'ai décidé de les rejoindre, surtout parce qu'il n'y avait pas de conductrice à l'époque. J'y ai vu une opportunité. Alors oui, un rêve un peu bricolé, mais un rêve quand même. Elle devient la toute première chauffeur de taxi somalienne. Son taxi blanc, je peux vous dire qu'elle en prend soin encore plus que vous prenez soin de vos mocassins à glands Berluti à 3000. Stéphane, elle fait très attention. L'un des responsables de la société de taxi pour laquelle elle travaille explique « Le nombre de femmes chauffeurs de taxi était très faible pour des raisons de sécurité, mais depuis que nous avons lancé l'entreprise, nous recrutons plus de femmes. » Bon, alors vous emballez pas, il y a seulement 3 femmes sur les 2000 taxis de son entreprise. C'est déjà 3 fois plus qu'avant. La clientèle est souvent un peu déstabilisée en voyant dans le rétro le visage gracieux et délicat de notre chauffeuse avant-gardiste. Certains sortent, prétextant très certainement maladroitement quelque chose du style « Oh tiens, j'avais oublié que ma trottinette électrique était garée là, juste au coin, je suis con, bonne journée. » D'autres restent et constatent...
Les trottinettes électriques de
Mogadiscio, c'est les plus rapides. D'autres restent et constatent que la course est très agréable et très efficace. Un étudiant avoue avoir été étonné, voire carrément gêné, lorsqu'elle l'a pris en charge pour une course la première fois. Mais il ajoute ensuite « Même si habituellement c'est un travail pour les hommes, aujourd'hui je préfère avoir une femme. Elles sont toujours à l'heure et elles conduisent beaucoup plus prudemment. » Gagne jusqu'à 40$ par jour, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Elle dit vouloir continuer à faire changer la vision de son pays sur le rôle des femmes. Noble mais hasardeux projet, puisqu'en Somalie, comme partout dans le reste du monde d'ailleurs, le milieu des taxis reste un domaine de bonhommes. Mais bravo Acha, promis, si je passe à Mogadiscio, je ferai appel à tes services. Tu es en tout cas un formidable exemple pour toutes les Somaliennes, la preuve que tout est possible. Enfin, on n'est plus surpris par rien, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, en plein après-midi sur Europe 1, on a entendu ça.
Mais c'est par son... que je voudrais bien me faire tuer. Ce produit.
Non, pardon. Elle fait si, Stéphane.
Ce prodigieux doit être agréable.
C'est très bipé, votre affaire.
Moi, j'ai ma lentille qui est partie. Perdu ma lentille de contact. Il n'y a plus que des bips, Stéphane. On n'a plus le droit de diffuser ce passage. Parce c'est que vrai. C'est un horaire familial, en fait.
Oui,
alors, peut-être pour une rediffusion nocturne, on aura le droit de l'entendre.
Mais
un horaire familial, il y a des gens qui sont étouffés.
Pourtant, les gâteries et l'heure du goûter.
C'est vrai.
C'est ce qu'on leur a dit. Mais ne recommencez pas, vous êtes intenable.
Merci, Mathieu. C'était parfait. Je crois que tout est vrai dans l'histoire d'Acha.
Tout est vrai.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces femmes au courage bluffant.
Pour retrouver des hommes à qui il faut aussi, ma foi, un certain courage pour aborder sans tabou des sujets aussi clivants que l'origine du café liégeois. Olivier Pouls, vous nous entraînez.
Que quelque part, il est d'Amérique du Sud.
Mais il est plutôt viennois.
Viennois ou liégeois.
On va découvrir ça dans un instant, mais d'abord, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais lui, oui, le Nyan Cat.
Le Nyan Cat. Alors, vous le savez, Internet, ça a créé quand même des phénomènes culturels complètement inédits dans l'histoire de l'humanité. Des choses qui ont eu un succès fou, sans qu'on puisse vraiment expliquer, sans que personne puisse vraiment expliquer pourquoi. Et l'un des plus célèbres de ces succès, c'est le Nyan Cat, le chat qui fait Nyan. Nyan en japonais, vous l'avez dit, c'est juste la traduction de miaou en français. Donc le Nyan Cat, ça veut juste dire le chat qui fait miaou. Alors je sais bien que personne autour de cette table ne sait ce que c'est que le Nyan Cat, donc je
même
vais...
Même derrière la radio.
Mais, même, même parmi nos auditeurs.
Ah, si, le Nyan Cat...
Non mais nous sommes d'un autre temps.
C'est vrai, d'un autre monde.
Le Nyan Cat, c'est une petite vidéo YouTube dans laquelle on voit un petit chat gris dessiné de façon très rudimentaire avec des pixels. Et ce chat n'est pas un chat comme les autres pour au moins quatre raisons. La première, c'est qu'ils volent dans les airs. Or, on le sait, les chats, ils ont beaucoup de qualités, mais ils ne peuvent pas voler. Deuxièmement, ce chat, il a un corps en forme d'une friandise, très populaire aux États-Unis mais inconnue en France, qu'on appelle les Pop-Tarts. Les Pop-Tarts, ce sont des sortes de cracottes, si vous voulez, mais en plus d'être fourrées de confiture, elles sont aussi nappées. Troisième caractéristique étonnante de ce chat laisse dans le ciel, sur son passage, quand il vole, une traînée de fumée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et enfin, le vol de ce chat se fait en rythme sur une musique frénétique et agaçante que voici.
Je vous la laisse longtemps.
Voilà, je pense qu'on peut arrêter. Vous avez l'idée.
Ah, c'est...
Je vous le montre quand même, le Nyan Cat, après ce que j'ai décrit.
Ah oui, c'est très rudimentaire. Ouais,
c'est extrêmement rudimentaire. Alors bien sûr, vous vous dites, c'est n'importe quoi.
Hein, oui.
Vous
vous dites c'est ça.
C'est n'importe quoi. On a pris des éléments qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, on les a fusionnés et on en a fait une vidéo débile. Et vous avez parfaitement raison. Là où ça devient étonnant, c'est que la vidéo que je viens de décrire a été pendant un moment l'une des vidéos les plus vues de l'histoire de l'Internet. C'est tout simplement l'un des plus grands phénomènes de l'histoire de cette méta-société qui est le web et qui relie à distance des centaines de millions de gens chelous cachés derrière l'anonymat de leur ordinateur. Au moment où j'ai écrit cette chronique, et donc c'était hier, la vidéo du Nyan Cat, elle avait été vue 192 millions de fois sur YouTube. Il y a eu des reprises de la musique dans tous les styles. Une version métal, une version jazz.
Ah, ça ne l'a pas fait.
Et même une version pour orchestre symphonique. Alors, on voit pas vraiment pourquoi l'histoire de la création du Nyan Cat serait particulièrement intéressante, et on a raison. Il a été dessiné par un jeune homme de 25 ans, qui s'appelle Chris Torres, qui était employé dans une compagnie d'assurance au Texas. Chris, il avait un petit site qui s'appelait LOL Comics, où il postait des blagues dessinées, et il demandait aux gens qui le suivaient de lui donner des mots-clés desquels il s'inspirait. Et il avait visiblement été question en mars 2011 d'un chat, d'une Pop-Tart et d'un arc-en-ciel. Et Chris, il a fait quoi ? Eh ben, il a dessiné un chat avec un corps de Pop-Tart et un arc-en-ciel. Et il en a fait d'abord un dessin et puis un gif. Le chat, il s'inspirait de son propre chat à lui qui s'appelait Marty. Et voilà. Quelques jours plus tard, il y a un youtubeur japonais qui a mis le Nyan Cat sur une musique assez populaire au Japon à l'époque.
C'est pas lui qui avait mis la musique.
C'est
alors.
Pas lui qui avait mis la
ça
musique.
S'est fait en deux fois.
Ça s'est fait en deux fois. C'est un youtubeur donc qui a mis la musique, le chat avec la musique. Cette musique qui s'appelait donc Nya, c'est le titre de la musique. Et ça a été le phénomène que j'ai décrit. Il y a eu assez vite des versions de 10 heures de la vidéo qui ont été mises en ligne. Il y a une version de 24 heures du Nyan Cat. Vous imaginez 24 heures de ça ?
Vous devenez fou.
Mais on dirait une torture de Guantanamo. Ouais. Vous voyez, il y a des gens qui se l'infligent à eux-mêmes par plaisir. Chris Torres, il a signé des contrats avec plein de compagnies de merchandising. Donc il y a des peluches, des jeux vidéo sur iPhone du Nyan Cat. Après, le monde s'est un petit peu calmé jusqu'à cette année qui marquait le 10e anniversaire du Nyan Cat.
Non, déjà.
Oh, le temps passe vite. En février dernier, le Nyan Cat, il a été vendu pour 500 000 euros en tant que NFT.
NFT ?
Vous savez ce que c'est les NFT ? Ce sont ce qu'on appelle les jetons non fongibles. C'est ces œuvres d'art numériques qui sont reproductibles à l'infini, mais dont vous achetez un exemplaire unique traçable sur la blockchain. Donc 500 000 euros.
Vous êtes toujours là, Stéphane. Traçable sur la blockchain, vous ?
Non, je suis pas vendable.
Vous n'êtes pas vendable sur la blockchain. Alors personnellement, je trouve que c'est 500 000 euros qu'a coûté cette version non reproductible d'un truc complètement reproductible. C'est une nouvelle couche de n'importe quoi sur un phénomène qui était déjà assez n'importe quoi comme ça. Mais au moins, c'est rigolo à raconter.
500 000 dollars bien dépensés, hein,
oui,
Stéphane.
Absolument.
Vous ne regrettez pas vos investissements.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Et tout de suite, reconnectons-nous avec des choses simples. qui parlent un peu plus à Stéphane que le Nyan Cat.
Oui.
Le café liégeois. D'où viens-tu, café liégeois?
Europe 1. Historiquement vôtre.
Olivier Pouls, le café liégeois vient de Liège, évidemment.
Eh ben non. Est-ce que vous aimez ça, le café liégeois?
Je ne sais pas, mauvais.
Bah, c'est bon, hein.
Ah, peut-être.
Non, c'est un peu.
Fin... Ça fait partie de ces desserts un petit peu oubliés, on n'en voit plus beaucoup, mais quand c'est bien fait, c'est franchement bon.
Rappelez ce que c'est.
Eh ben, je vais vous donner la recette, évidemment, dans un instant. C'est aujourd'hui un dessert, c'est-à-dire composition qui intègre de la glace au café, du café froid, de la crème chantilly. Je reviendrai sur la recette en détail parce que je veux d'abord vous raconter l'histoire qui n'est pas banale, qui est assez amusante, en fait. Parce que, comme vous l'avez dit, café liégeois, on se dit, forcément, ça vient de la ville de Liège, en Belgique, et bien pas du tout. C'est en fait une histoire d'héroïsme et de guerre. Alors, nous sommes en 1914, la bataille des forts de Liège, qui est une bataille importante du début de la Première Guerre mondiale, montre le courage et la valeur des soldats.
Olivier Pouls.
Qui résistent à l'envahisseur allemand, en tout cas pendant un petit bout de temps, avant de plier, mais en tout cas, ils sont très héroïques. Et on a vent de cet acte de bravoure jusqu'à Paris, où on est encore relativement tranquille, et où, dans les cafés, sur les terrasses, on consomme alors ce qu'on appelle un café viennois. Et pour rendre hommage aux Belges et pour leur témoigner une certaine affection, on rebaptise ce café le café liégeois, d'autant que les Viennois, les Autrichiens
étaient avec les Allemands,
étaient évidemment dans le mauvais camp et pilonnaient les forces belges. Donc on débaptise le café viennois et on le rebaptise café liégeois.
Mais alors je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on l'appelait le café viennois à la base?
Évidemment, parce que le café viennois, lui, est né à Vienne. Il est né beaucoup plus tôt et il est né d'une autre histoire de guerre assez amusante au XVIIe siècle. En 1683, la ville de Vienne est assiégée à l'époque par les Turcs. Et il y a un certain Georges Gorg Koleski, qui est un Polonais d'origine, qui va donner des informations qui vont permettre aux Viennois de l'emporter sur les Turcs et de chasser les Turcs de la ville. Pour le remercier, la ville de Vienne va lui offrir 500 sacs de café qui ont été abandonnés par l'ennemi, qui ont été abandonnés par les Turcs qui avaient déjà l'habitude de consommer du café, ce qui n'était pas tellement le cas des Viennois. Il va ouvrir le premier café d'Europe et il va se dire qu'est-ce que je peux faire avec ces grains. Donc il va en un premier temps proposer ce qu'on appelle des cafés turcs. C'est un café dans lequel le marc reste dans la tasse, qui est un café très fort et qui ne plaît pas à la clientèle. Donc il va avoir l'idée de le passer, de faire les premiers cafés passés, premiers cafés filtres, et de l'adoucir avec du miel et du lait. Et donc il va donner naissance à cette création qui est l'ancêtre, on peut dire, du café viennois et ensuite du café liégeois. Il n'y a pas encore de glace, il n'y a pas encore de chantilly, tout ça va venir un petit peu plus tard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, à Vienne, quand vous demandez un café viennois, on comprend pas. Parce que ce sont les étrangers qui ont donné le nom de café viennois et qui ont exporté la dénomination.
Un café Wiener Café, ils vous donnent un café c'est avec de la crème.
Et en réalité, eux, la dénomination de café viennois, c'est le café des cochers. En traduction allemande, évidemment, puisque les cochers avaient l'habitude, entre deux courses, dans un temps où il faisait encore un peu rude à travailler, d'aller boire ces cafés, et donc on l'appelait le café des cochers. Alors aujourd'hui, c'est devenu une recette qui est même plutôt un dessert, assez facile à faire. Il vous faut une très bonne glace au café, il vous faut du cacao, du café bien froid, donc un café normal que vous avez, un espresso par exemple, que vous avez mis au frigo, de la crème chantilly, donc de la crème liquide avec un petit peu de sucre vanillé que vous montez bien fermement, et puis des petits grains de café à la liqueur que vous achetez. Donc dans un verre, on met la glace, on la tasse un peu, on verse le café froid par-dessus, on vient rajouter la chantilly, on saupoudre d'un cacao amer et on dispose des petits grains de café par-dessus, et vous avez ce qu'on appelle un café liégeois aujourd'hui.
Eh bien, merci Olivier. Toutes vos recettes plus délicieuses les unes que les autres sont à retrouver sur l'excellent site europe1.fr.
Pour terminer, on va vérifier si votre cerveau infuse autant que le café. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts les uns les autres à vous affronter?
Oui.
C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous connaissez le principe, hein, une question pour chacun. En cas d'égalité, une dernière question pour vous départager avec un chiffre à donner. Il faudra vous approcher au plus près de la bonne réponse. Alors Olivier, je commence par vous. Parfois, les historiens disent du mal de la bombe atomique. Mais en Russie, par trois fois. On a utilisé une bombe atomique pour éteindre des incendies. Vrai ou faux?
Alors qu'on utilise des bombes pour éteindre des incendies, ça c'est sûr. Il y avait même un spécialiste américain au moment de la guerre d'Irak pour éteindre les puits de pétrole en feu. Je sais qu'il bombardait parce qu'avec la déflagration, ça permet de, le souffle, ça permet d'éteindre l'incendie.
Comme souffler une bougie
mais,
très
mais,
fort.
Mais je ne pense pas qu'ils aient utilisé des bombes atomiques parce que
il y aurait
des résidus, etc. Donc je dirais faux.
Non, en même temps, on est en Russie. Enfin, tout est possible en Russie.
Mais
tout
si c'était vrai. En 1966, en 1968 et 72, sur des forages pétroliers justement, l'arrivée de gaz alimentait des incendies très importants. L'onde de choc souterrain a coupé les remontées de gaz et des incendies ont pris fin.
Ouais, en fait, c'est pas des bombardements aériens, c'est des les ont fait péter dans le sol en fait. Du coup, il n'y a pas eu les champignons et les retombées.
Oui. Ouais. Oh, c'est bon. Maintenant, la radioactivité est dans le sol.
Alors, une question. Alors, pour les patates, vous connaissez tous le domaine de prédilection de David Castillo López.
Il y en a plusieurs. Hein.
Son vrai domaine de prédilection, ce sont les nazis. Petite question donc sur les nazis, rien que pour vous, David. Oui. Heinrich Himmler, le maître absolu des SS, avait une passion obsessionnelle pour les cochons d'Inde. Vrai ou faux?
J'en sais tellement rien. Et c'est, en fait, il devait avoir une passion pour autre chose, des criquets ou
les souris.
Je dirais vrai.
Non, vous aviez raison, le raisonnement était bon. Voilà. Il avait une obsession pour autre chose. C'était la sorcellerie. Oui, on a retrouvé dernièrement sa collection de livres consacrés aux sciences occultes. 13 000 ouvrages quand même.
Ah oui.
Alors, le dernier en liste, Mathieu, depuis 2009 en Islande, il n'y a plus de titres royaux ou il n'y a plus de McDo?
Je ne repense à la question, elle est quand même assez...
Je pense qu'il n'y a plus de McDo en Islande, donc reformulez-moi votre question, s'il vous plaît. Vous me reformulez la question.
Vous voulez la question?
Oui, s'il vous plaît.
Depuis 2009 en Islande, il n'y a plus ou de titres royaux ou il n'y a plus de McDo? 2009.
Il n'y a plus de McDo.
Oh. Bonne réponse.
Victoire.
D'abord, l'Islande était un royaume, mais jusqu'en 1944.
Ah oui, donc il
y avait déjà plus de titres royaux depuis 1944. Quant au dernier McDonald's, eh bien, oui, il a été fermé en 2009. Par contre, il y a une webcam qui permet de voir le dernier sandwich McDo fait en Islande.
Ah oui, non, mais oui, parce que ça, c'est toute une histoire intéressante. Non, non, c'est David. C'est presque aussi passionnant que le Nyan Cat.
Non, parce qu'elle se dégrade pas.
Ça. C'est voilà. Pour montrer qu'un produit McDo, il y a tellement de conservateurs que ça ne bouge pas. Et donc, ça a combien d'années, ce
2009,
12 ans. 2000, voilà. Il est là et on voit qu'il a quasiment pas bougé depuis l'époque où il a été servi.
On peut toujours le manger.
Oui, bah non, mais...
Voilà. Eh bien, c'est une victoire. Merci, Noël.
Merci, mon public et mes fans qui m'ont beaucoup soutenu dans cette victoire. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Il était consacré aujourd'hui à trois femmes admirables qui ont su s'affranchir de leurs carcans respectifs. Stéphane, laquelle de nos héroïnes du jour vous a le plus fasciné?
Vous savez, au fil des émissions, je me dis maintenant, une fois qu'on traite tous ces personnages, quel est le personnage pour lequel j'ai envie d'en savoir encore plus?
C'est la question qu'il faut se poser.
Et de lire tout ce qu'il y a sur ce personnage.
Et je connais votre réponse.
C'est Bianca Capello, là,
Bianca
aujourd'hui.
Capello, parce qu'on la connaissait vraiment pas.
On la connaissait pas, les Carolistes l'ont sortie de l'ombre.
Et on ne sait pas si elle a été assassinée. Surtout.
Exactement,
c'est
moi j'adore ça.
On a envie de savoir. Envie de savoir.
Je suis sûr aussi.
Mais
je veux toujours croire que l'histoire est tragique.
Bien sûr. Demain, vous auriez pu faire partie de nos personnages, Stéphane?
Pas du tout. Demain, on réunit d'habiles calculateurs. Le cardinal Mazarin, qui a usé de manigance pour se faire une place de choix à la cour du roi. Le duc de Nevers, qui a su placer ses pions pour nouer des alliances.
C'est bien ce que je dis, vous auriez pu faire partie de nos personnages. Moi, je vous parlerai d'Alexis Le Maire, tellement habile calculateur qu'il détient le record du monde de calcul mental.
Bon, écoutez, quittons-nous bons amis, Mathieu. À demain.
À demain, Stéphane. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.